Alors, contrairement à certains animaux, eh bien, notre vision humaine a un angle de vue limité. Si je regarde un point à l'horizon, ma vision sur les côtés sera assez floue et derrière, je n'y verrai rien, évidemment. Alors, vers quoi se porte mon regard? Quand je marche dans la rue, eh bien, je regarde devant mes pieds pour éviter des obstacles. Je ne vois pas forcément l'oiseau qui va se perdre dans l'arbre. Quand je travaille, mes yeux et ma tête sont concentrés vers le sujet qui m'occupe. Quand je rencontre quelqu'un, je le regarde ou pas. Vous savez bien, dans la rue, je vous mets au défi de me dire qui n'a jamais table et pas regarder les autres personnes que l'on voit arriver. Et c'est là où, en effet, il y a une distinction à faire entre voir et regarder. Je peux voir quelqu'un, je peux voir un environnement sans vraiment le regarder avec tous ses détails. Souvent, mon regard est arrêté par ce qui bouge. Et ça peut être évidemment sur les écrans, à la télévision. Et puis, grâce à mon regard, je peux lire. Je peux lire, entrer dans une histoire. Et si j'entre dans une histoire, eh bien, je peux voyager. Et là, on peut parler d'un regard intérieur. Ce n'est plus un regard avec nos yeux, mais un regard avec notre intelligence, notre esprit. Le regard intérieur, c'est réfléchir en soi-même, laisser des images venir à notre conscience, des nouvelles idées, c'est être à l'écoute de nos intuitions. Alors, notre regard peut être donc extérieur, rendu possible par notre corps, ou intérieur en ce qui concerne le cœur ou l'esprit, conscience. Dans notre passage, les disciples ont du mal à détacher leur regard du ciel. On retrouve quatre fois l'expression vers le ciel. Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Les disciples ont porté leur regard vers Jésus qui s'éloignait. Une nuée les a empêchés de le voir. Et en fait, on se dit, eh bien, il y a beaucoup de liens avec l'ancien. L'ascension est finalement un récit, une mise en récit pour expliquer pourquoi Jésus ne peut plus être vu. Alors, le ciel prend un autre sens. Symbolique et spirituel. Dire de quelqu'un qu'il est au ciel, c'est dire en général qu'il est mort et c'est signifier aussi souvent avec Dieu. Le ciel désigne symboliquement le lieu où Dieu est présent, ou plutôt une autre dimension inconnue de notre réalité terrestre. Et c'est d'ailleurs compliqué quand un enfant demande à la mort d'un grand-parent. Et si on lui répond, il est au ciel, ça peut poser des soucis, des problèmes. J'ai entendu le témoignage d'une personne un jour qui racontait que quand il était petit, il avait une angoisse terrible de prendre l'avion, des fois que l'avion heurte son papy ou sa mamie. Alors, quand on répond à l'enfant, je crois qu'il ou qu'elle est avec Dieu, eh bien, cette réponse peut le satisfaire parce que d'une part, c'est de l'ordre de la foi et non pas de la démonstration scientifique. Et il est bon que les enfants comprennent que les adultes n'ont pas les réponses scientifiques à tout. Par contre, ils peuvent entendre qu'une réponse peut ouvrir sur autre chose. Et d'autre part, l'enfant a souvent mieux que nous la perception, la conscience de cette autre dimension. Et du coup, du regard extérieur, on l'aide à passer à ce regard intérieur, qui est une de nos grandes richesses humaines. Il continue ses questions et s'il demande, mais où est Dieu? Eh bien, nous continuons à témoigner selon notre foi personnelle. On peut dire, par exemple, bah, je crois que Dieu vient nous rendre dans notre cœur. Celui qu'on appelle le Très-Haut est en réalité au cœur de notre monde, dans nos cœurs, puisqu'avec Jésus-Christ, il est vivant à travers nous. Toutes les références symboliques du ciel sont nombreuses pour parler de ce lieu de la présence de Dieu. Par exemple, dans la prière du Notre Père, on commence par dire « Notre Père qui est aux cieux », alors c'est un pluriel. Il faut beaucoup de cieux pour contenir Dieu, je ne sais pas, je n'ai pas encore réfléchi à la question. Et puis on dit aussi « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Donc c'est cette volonté bonne qui est évidemment en Dieu. Et puis dans la vie courante, on entend aussi des expressions. Quand on veut parler de Dieu implicitement, sans le nommer, eh bien on peut dire « Mais qu'ai-je fait au ciel ?» Et puis une expression qui vient de la Bible « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Puis parfois, quand il y a quelqu'un qui arrive comme un ange, c'est le ciel qui t'envoie. Le ciel, eh bien, porte l'universel. On l'a tous au-dessus de nos têtes, quel que soit le lieu où on habite. Et de même que la naissance de Jésus porte l'universel, et sa mort également, la venue de Jésus n'est pas réservée à ceux qui croient en lui. Il est là pour tous les humains, pour toute l'humanité. Avant de se séparer de ses disciples, Jésus parle de la bonne nouvelle à annoncer et les disciples lui demandent « Est-ce maintenant le temps où tu veux rétablir le royaume pour Israël ?» Là, on est dans ce peuple d'Israël dont les disciples font partie. Et en fait, Jésus va ouvrir ce royaume à tous. Il va dire « Vous serez mes témoins à Jérusalem, donc dans une ville qu'on connaît, dans toute la Judée et la Samarie, qui sont les deux lieux d'Israël, royaume du Nord, royaume du Sud, autrefois, et il continue en disant « Et jusqu'aux extrémités de la terre ». Et ça, eh bien, on en a tous bénéficié, sur toute la terre aujourd'hui. Être témoin, c'est justement parler de ce qu'on ne voit pas, avec nos mots. Alors on peut parler avec les mots du ciel, mais on peut parler aussi avec des mots que Dieu peut nous inspirer. C'est vrai que ça peut être implicite dans une conversation, sans choquer. On a parlé de l'enfant tout à l'heure, c'est un interlocuteur très précieux, parce qu'il nous fait une entière confiance. Parler de ce qu'on ne voit pas, c'est aussi le dire avec des mots, mais aussi le montrer en le vivant. Si je dis à quelqu'un « tu es aimé de Dieu » et puis que mon comportement ne le reflète pas, c'est évidemment contre-productif. Si je veux ouvrir à l'espérance et que je suis moi-même déprimée, pessimiste, est-ce que je vais donner envie de croire justement à ce qu'on ne voit pas, à ce qui est censé nous faire vivre ? Être témoin, c'est vouloir être dans ce mouvement de la vie qui implique de recevoir et de donner, recevoir la vie et transmettre un regard vivant. Quand les disciples entendent l'interpellation des hommes en blanc, ils redescendent vers la ville. Ils ne rentrent pas dans leur maison, dans leur propre maison, chez eux. Mais ils se rassemblent, ils se retrouvent. C'est ensemble qu'ils peuvent parler de ce Jésus qui leur fait des surprises jusqu'au bout, se ressusciter. Et même s'ils ne le voient plus, ils savent que Jésus a vaincu la mort. En lui, ils sont des frères, et cette fraternité les porte. Tous les disciples, après notre passage, sont cités par leur nom. Chacun est investi de ce témoignage apporté, eh bien, selon sa foi, selon ses capacités. Mais ils ne sont pas seuls. Pour que le témoignage soit porté plus loin, ils ont chacun besoin d'être nourris, et nous le verrons dimanche prochain. Car dimanche prochain, nous célébrerons le don de l'Esprit-Saint à la Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit, c'est un peu du ciel qui s'invite en nous. Dans nos esprits, dans nos cœurs, nous sommes appelés à le vivre pleinement sur la terre. Nous sommes pleinement appelés à vivre avec ceux que Dieu a mis à nos côtés, avec ceux qui s'approchent de nous, deviennent nos prochains. Alors, quel regard nourrir ? Un regard qui a envie de s'enfuir vers un ciel hors d'atteinte ? Un regard qui s'enferme dans la lourdeur de la vie ? Jésus nous demande de nourrir notre regard pour refléter notre espérance, Et cette nourriture est à prendre dans tout ce qui nous fait du bien, dans la profondeur. Il y a bien sûr l'amour et l'amitié des proches en qui on a confiance. Il y a aussi la fréquentation des personnes qui viennent à l'église. Leur diversité nous renvoie une multitude de manières de croire en Dieu. Mais il y a aussi tout ce que l'être humain peut réaliser de bon sur la terre, pas forcément uniquement dans l'ordre du religieux, tout ce qui fait partie de l'art. Tous ces gestes magnifiques, les initiatives humaines qui portent l'espérance. Vers quoi je porte mon regard? Vers ce qui m'émerveille et qui suscite en moi de la joie? Oui, nourrir mon regard d'espérance peut me permettre de poser des gestes d'espérance. Et nous avons à tenir ensemble la traversée de nos vies avec les traces d'espérance. Nous avons à tenir ensemble la terre et le ciel. Amen.